Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le jeudi 17 janvier 2019 et nous sommes au lendemain d'un jour historique. Puisqu'en effet, chers auditeurs fidèles de Debout les copains, je suis en mesure de vous informer que l'objet même de cette cause nationale pour laquelle nous nous battions depuis maintenant 5 mois, le Evaton, opération destinée à trouver un Jules à ma consoeur Eva Rock, n'a plus lieu d'être. En effet, c'est hier que la nouvelle est tombée en pleine matinale alors que rien ne le laissait présager. Simplement au détour d'une question anodine où je demandais à Eva comment elle allait et qu'elle m'a répondu en rougissant.
Je suis une femme amoureuse et je te parle clair.
Forcément, depuis cette révélation fracassante, toute la rédaction d'Europe 1 est en ébullition. On est tous très curieux de savoir qui c'est, surtout Céline Dacosta.
Il est dans le sport, il est chauve.
Enfin, Céline, c'est sa vie privée. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on lui souhaite bon courage. Eva est une femme admirable, mais un poil possessive. Good luck, my friend. Une telle franchise, un tel irrespect de la vie privée de ces journalistes, pas de doute, vous écoutez.
Debout les copains,
2 heures de bonne humeur pour tout savoir de l'actu et du nouveau compagnon des Baroques. Justement, Eva, pour fêter ça, quelles questions posez-vous à nos auditeurs? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez rencontré? C'est quelqu'un qui a envoyé un message
exactement.
Au 3921,
eh ben
c'est
alors
ça?
Attendez, vous allez voir la question du jour.
Ah oui.
Vous savez que le recensement débute, on en parlera d'ailleurs à 6h20 avec votre invité.
La fécondité baisse.
Non, ça n'a rien à voir. Écoutez-moi jusqu'au bout. C'est notre ami et producteur Sébastien Bordenave qui a eu l'idée de cette question. Il veut en fait mieux connaître les auditeurs. Envoyez-nous votre prénom, votre âge et votre petit signe particulier.
Oh, j'ai eu peur. Sachant en plus que c'était une question de bordonnage, ça aurait pu plus mal finir que ça. À vos côtés.
Pardon, sur Twitter avec le hashtag Europe 1,
évidemment.
Si je précise pas, c'est compliqué.
À vos côtés, elle était tellement inquiète pour vous, elle était si compatissante de votre célibat non choisi que désormais elle se réjouit de tenir la chandelle. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je crois qu'aujourd'hui Céline, l'astre solaire en personne, a décidé de fêter le succès sentimental des Baroques.
Oui, il y aura un petit peu de soleil, mais il y aura aussi un petit peu de pluie.
Et puis
un petit peu de neige.
Ah bah ça
va être un petit peu. Bon pour votre relation, Eva. Ah, Céline, c'est génial quand même. Sincèrement, vous êtes heureuse de ce qui arrive à Eva.
C'est sûr, c'est very sûr.
Magnifique. Allez, vous les copains, c'est parti.
Nous sommes le jeudi 17 janvier. Bienvenue sur Europe 1. Et très bon réveil à tous. Il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce jeudi 17 janvier, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Les premières rencontres de citoyens ont commencé dans le cadre du grand débat. Le gouvernement a aussi lancé le site de cette consultation nationale. Explication dès le début du journal. 5 prêtres traditionnalistes du Pas-de-Calais en garde à vue soupçonnés de maltraitance sur des enfants accueillis dans un pensionnat. Et puis c'était juste, Theresa May surmonte la motion de censure. Rejetée à 19 voix près, mais la mission de la première ministre britannique de mener à bien le Brexit reste éminemment compliqué.
Europe 1.
Une centaine de personnes réunies dans une salle municipale pour un débat 100% citoyen. Cela se passait hier soir à Saint-Germain au Mont d'Or, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Les premières réunions locales s'organisent dans le cadre du grand débat national. Chaque citoyen peut y participer via ses réunions locales ou via le site internet dédié www.granddebat.fr. La plateforme est en ligne. Vous pourrez notamment y trouver un kit du gouvernement censé aider votre réflexion, notamment une fiche très politique sur la question sensible de la fiscalité et des dépenses publiques. Anne-Laure Jumet.
À ceux qui veulent baisser les impôts, le gouvernement répond « D'accord, mais il faut tailler dans la dépense publique » et il veut montrer que c'est loin d'être simple. Sur cette fiche de présentation du débat sur la fiscalité, on peut ainsi lire « Sur 1000 euros de dépenses publiques, 575 euros financent la protection sociale. Et si on prend les principaux postes, on a dans l'ordre les retraites, l'assurance maladie et l'éducation. À l'inverse, les dépenses liées à l'Assemblée, au Sénat et au gouvernement ne représentent que 0,1%. Autrement dit, la réponse ne se trouve pas dans la baisse des revenus des élus et des membres de l'exécutif. Suivent ensuite dans ce document une série de questions un peu orientées. Pour baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses faut-il réduire en priorité? Celles de l'État, des collectivités territoriales ou les dépenses sociales? Et dans quel domaine faut-il avant tout faire des économies? Éducation, transport, défense, sécurité, logement, environnement? Bref, de quoi montrer qu'une fois qu'on rentre dans le détail, ce n'est pas facile de dégager des marges de manœuvre sans toucher à des services publics ou à des prestations sociales.
Anne-Laure Jumet, c'est aussi via ce site www.granddebat.fr que chaque citoyen pourra faire part d'une revendication. Ouverture de ce service lundi prochain.
Europe 1, il est 5h02.
Ça s'est joué à 19 petites voix près, c'est l'info de la soirée. La première ministre britannique Theresa May surmonte de justesse le vote de défiance lancé contre son gouvernement après le rejet du projet d'accord sur le Brexit. 325 voix contre 306. La première ministre souhaite désormais entamer des discussions avec l'opposition travailliste. Le Royaume-Uni est censé quitter l'Europe le 29 mars. En France, les trois lettres de la discorde LBD pour lanceur de balles de défense, l'arme utilisée par les forces de l'ordre lors des manifestations, dont celle récente des Gilets jaunes. Elles ont fait 69 blessés depuis le début du mouvement il y a deux mois. L'enquête d'Europe 1 révèle que la France a choisi de les armer avec les munitions les plus puissantes du marché. On y revient dès le début du journal de 5h30.
L'affaire Benalla, de retour devant les sénateurs hier.
Le directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Strauda, entendu par la commission d'enquête, a révélé que l'ancien chargé de mission avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre août et septembre dernier et qu'il avait obtenu l'un d'entre eux grâce à une falsification de documents. L'Élysée a saisi la justice. Alexandre Benalla doit s'expliquer devant les sénateurs lundi prochain. Le gouvernement français lâche Carlos Ghosn, dont les heures à la tête de Renault sont désormais comptées. L'État est actionnaire majoritaire de la marque aux losanges. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, demande la convocation d'un conseil d'administration pour désigner un successeur au PDG détenu au Japon depuis près de deux mois, soupçonné de malversations financières et abus de confiance.
Et Jérôme, cinq prêtres traditionnalistes du Pas-de-Calais sont en garde à vue.
Soupçonnés de maltraitance sur des enfants ou adolescents accueillis dans le pensionnat de cette communauté religieuse de Sainte-Croix de Riaumont à Liévin. Méthode d'éducation rigoriste, une communauté dans le collimateur de la justice depuis plusieurs années. Lionel Gougelot.
Depuis près de 5 ans, ce sont des dizaines d'anciens élèves, scouts ou pensionnaires qui ont témoigné de faits de maltraitance ou d'agressions sexuelles commis dans les années 90 par des religieux de cette communauté traditionnaliste. Et après la mise en examen en 2017 d'un ancien père prieur pour détention d'images pédopornographiques, le père Argouache, directeur du village d'enfants, affirmait l'an dernier vouloir faire toute la lumière sur ces affaires.
Et s'il y a eu des histoires de sexualité avec les enfants, nous les condamnons, nous les dénonçons avec force, avec vigueur, et on veut que la justice passe. Par contre, la communauté actuelle, pour l'instant, il n'y a rien à lui reprocher.
Pourtant, c'est bien pour des faits de violence commis entre 2008 et 2014 que les religieux ont été placés en garde à vue. Ce qui n'étonne pas Charline Delporte, la présidente d'une association qui accompagne les familles victimes de sectes, avait été alertée sur cette communauté après le suicide d'un jeune pensionnaire en 2001.
On a eu suffisamment de témoignages sur cette communauté de Riaumont, avec des méthodes d'un autre temps, des maltraitances. Aujourd'hui, peut-être, enfin, ils vont pouvoir s'expliquer devant, non pas la justice de Dieu, comme il parle souvent, la justice des hommes.
Hier après-midi, les enquêteurs étaient encore sur place pour interroger les responsables. Une vingtaine d'enfants sont actuellement hébergés dans la communauté. À Liévin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis, on l'apprend ce matin, premier test en juin prochain pour le futur service national universel, annonce de Gabriel Attal, le secrétaire d'État à l'éducation. Cela se passera dans un département de chacune des régions françaises, plus un en Outre-mer. Et ça concernera 3000 jeunes de 16 ans. Le service national universel doit entrer en vigueur au plus tard en 2026.
À l'heure de passer au journal des sports, je préfère vous mettre en garde, Jérôme, ce matin. Vous parlez sous le contrôle d'Eva Rock, qui nous a révélé hier hors antenne, vous entendrez l'extrait tout à l'heure agrémenté d'un pipeau, qu'elle était dans sa jeunesse une grande sportive. Quand on voit dans quel état elle est aujourd'hui après avoir monté 3 étages...
Oh non, putain, bon matin là. Je suis au bout du rouleau.
On se dit que le temps est assassin. Mais bon, attention GG, la Marie-Jo Pérec du 06 vous écoute. Journal des sports. À la une, Jérôme. Oh, que je n'aime pas ce titre. Désolé. Que je n'aime pas ce titre, Jérôme.
Ah l'OM, si, allez-y, ça me fait plaisir, moi.
L'OM qui connaît un passage à vide.
Qui s'enfonce, oui. 9e rencontre d'affilée sans victoire pour les footballeurs provençaux. La défaite même hier soir à Saint-Etienne, 2-1. 17e journée, match en retard. Et c'est cruel pour ces Phocéens qui ont longtemps mené au
c'est
score.
Vous qui mais c'est cruel. Vrai, mais
ils ont longtemps mené au score avant de subir un doublé du Stéphanois Cazeri, second but inscrit dans les ultimes instants. L'entraîneur marseillais Rudy Garcia a vu du mieux dans le jeu. Le problème, c'est que ces joueurs n'ont pas su marquer dans leur temps fort.
On ne peut pas les féliciter parce qu'on a perdu. Donc ça veut dire qu'il faut mieux gérer ces détails dans les zones de vérité. On a la balle de 2-1. On ne peut pas faire une performance comme ça et perdre un tel match. Voilà. Puis on a vu une équipe de l'Olympique de Marseille déterminée, solide, solidaire. C'est de bon augure pour la suite, même si encore une fois... On revient bredouille.
Et les Marseillais sont ce matin 9e à 8 points du podium. Le podium, c'est l'objectif de fin de saison. 3e place du classement, occupée justement ce matin par Saint-Etienne.
C'est Stéphanois qui passe devant leurs grands rivaux lyonnais.
Et voilà, et les deux équipes en plus se retrouvent dimanche. Il va être chaud le derby. Les Lyonnais qui, hier soir, sans s'en sortir de justesse à Toulouse, menaient 2-0 avant d'égaliser sur un coup franc du champion du monde Nabil Fekir en toute fin de partie, de partout donc. Contre-performance, dit ce matin le gardien rodanien Anthony Lopez.
On n'était pas venu ici pour venir chercher un match nul. Il faut savoir maintenant regarder vers l'avant, avancer tous ensemble et voilà, rectifier le tir le plus rapidement possible parce qu'on on a un rendez-vous ultra important dimanche.
Et également hier soir, Nice-Monaco 1 partout, Nîmes-Nantes 1-0, Guingamp-Rennes 2-1. Un résultat de Coupe de France aussi, les Strasbourgeois gagnent 1-0 à Grenoble après prolongation. Les Alsaciens qualifiés pour les 16e de finale, ils défieront le PSG au Parc des Princes mercredi prochain.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
3. Le pilote de rallye Nasser Al-Attiyah devrait fêter aujourd'hui au Pérou le gain d'un 3e Dakar. Le Qatari premier au général avec plus de 50 minutes d'avance sur son dauphin. Ce matin, à l'aube de la dernière étape, il a remporté hier l'avant-dernière étape. L'Hub a fini très loin, à plus d'une heure. Quant à Stéphane Peter Hansel, 13 fois vainqueur, lui, il a dû abandonner.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, vous êtes au courant de la nouvelle. Eva a un mec. Donc le cadeau que vous aviez prévu pour son anniversaire, bah, vous pouvez le renvoyer. Hein. Il sert plus à rien. Dommage. C'était un bel objet.
En polycarbonate flexible, transparent, 61 cm.
Offrez-le à Céline.
Merci. Valentin. Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de vie quand celle qu'on mène ne nous correspond plus. Notre invité dont fallait oser ce matin a peut-être eu le déclic en entendant ce tube.
Chef, un petit verre, on a soif. Non. Chef, un petit verre, on a soif.
Christophe était journaliste. Un jour, il a tout plaqué pour devenir brasseur.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta.
Vous disiez qu'il y avait du soleil, regardez mon lancement.
Encore beaucoup de nuages et un peu de pluie. Bah, il faut qu'on se mette d'accord.
Oui, mais non, mais alors le soleil va arriver.
Moi, j'ai vu quelques petits trucs jaunes sur la carte. Jaune, pour moi, c'est du beau temps.
C'est ça, mais la pluie, c'est particulièrement ce matin. Vous voyez, entre le sud-ouest et le nord-est, c'est le reste de la perturbation d'hier qui s'est décalée. Partout ailleurs, le ciel sera mitigé, partagé entre nuages éclaircis et avec local. Des nuages un petit peu plus nombreux sur le nord-est dans l'après-midi, sur les Alpes et l'ouest de la Corse. On aura toute la journée de la neige sur les reliefs et puis ce sera un petit peu plus lumineux sur les côtes de la Manche et sur les côtes atlantiques, lumineux et sec, de la Bretagne au nord de l'Aquitaine. Quant aux températures, elles sont relativement douces ce matin après le passage de cette zone pluvieuse, mais par contre elles vont baisser cet après-midi. On verra ça en détail tout à l'heure.
Merci Céline. Eva Rock, si vous aviez l'amabilité de descendre de votre petit nuage pour faire votre métier et interroger nos auditeurs.
Eh bien, le recensement débute aujourd'hui et sur une très bonne idée de notre producteur Sébastien Bordonave, on a voulu savoir qui étaient nos auditeurs, mieux les connaître. Alors, on vous a demandé sur Twitter, avec le hashtag, d'envoyer votre prénom, votre âge et puis votre signe particulier. Alors, évidemment, Sébastien Bordonave a joué le jeu. Sébastien, 46 ans, cicatrice en haut de la fesse gauche, aime Johan Soir, les bébés loutres, ronflés dans l'open space, je confirme, Vincent Delerme, le whisky japonais, ce qui n'a aucun lien direct, nous dit-il, enfin, normalement. Eh bien, on a reçu déjà beaucoup de messages, notamment Quentin qui nous dit 25 ans, élève avocat à Paris, nostalgique d'une histoire d'amour terminée il y a peu. Un petit message en espérant que la personne concernée écoute Europe 1 ce matin, on ne sait jamais, et nous souhaite une bonne émission. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Si elle écoute Europe 1 à 5h11, à mon avis, c'est qu'elle est insomniaque et que donc elle ne va pas bien et que donc elle regrette. Elle va revenir.
C'est ça. Moi, vous le dis. Vous nous tenez au courant surtout.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous amuse et qui chaque matin vers 5h10 vous donne envie de changer de vie. Ce matin, nous partons à la rencontre de Christophe Gauthier. Il était journaliste du jour au lendemain ou presque, il est devenu brasseur de la carte presse à la pression suite à des difficultés. Oui, c'était pas mal ça, Eva. Oui, je voulais la faire.
Ah oui, elle est très bien.
Suite à des difficultés économiques dans son journal et une certaine lassitude du métier, il s'est donc lancé un nouveau défi.
Fallait oser.
Cette vie ne m'intéressait plus tellement, j'avais plus la niaque. Enfin, je sentais que je devenais blasé face aux différentes annonces qu'on pouvait avoir très régulièrement. C'est-à-dire que les nouveaux ordinateurs, les nouveaux iPhones, au bout d'un moment, moi, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Ça ne me bottait plus comme avant. Donc, il y a eu des moments où j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire de différent. C'est dans la bière que je me suis reconverti. Je suis devenu brasseur. Et donc, d'une idée un peu farfelue qui m'est passée par la tête, c'est devenu réalité au bout de 5-6 ans.
C'était il y a 4 ans. Christophe a quitté Paris pour s'installer à La Rochelle. Il s'est formé très sérieusement à la fabrication de bière et après quelques centaines de litres brassés pour se tester, eh bien, il a lancé sa propre micro-brasserie artisanale.
Désormais, il est bien placé pour nous dire que brasser de la bière de façon artisanale, ça demande de l'énergie et du temps. Christophe Gauthier fait de longues journées de travail, mais il est très fier de ce changement de vie qu'il a réalisé avec sa compagne Marie.
Mais en même temps, il y a une espèce de fierté monstrueuse de ce qu'on a pu accomplir. Finalement, la brasserie, on l'a créée en février 2015. C'était le jour de mes 40 ans. C'est quand même pas rien. Mais voilà, c'est un projet qui a abouti. Là, après 3 exercices fiscaux, on est à l'équilibre. Donc, c'est la preuve, enfin, qu'on avait un projet qui tient la route, qui n'a pas été facile à monter, qui n'a pas été facile à défendre. Parce qu'au départ, les banques ne voulaient pas trop nous suivre. Mais finalement, on a accompli quelque chose et on tient la barre et on ne va pas la lâcher de sitôt.
Pour les amateurs de malt et de houblon, notez que la microbrasserie de Christophe s'appelle la Benaise.
Et si vous aussi vous avez changé de vie et que vous souhaitez témoigner dans cette émission, vous n'hésitez pas à nous contacter sur europe1.fr ou
sur
Twitter.
Et que vous êtes lancé dans la distillation de vodka.
Voilà, avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de bonne humeur et aussi parfois d'émotion, comme lorsqu'on apprend que notre collègue Eva Rock a rencontré quelqu'un. Mais Eva, au fait, vous avez concrétisé ?
Ah oui.
Vous n'avez pas perdu de temps. À suivre, une édition spéciale feignasse de Jeudi les bons tuyaux. Avec notamment une chaussure connectée qui se lasse toute seule et un livre connecté qui se lit tout seul, combiné à la machine qui fait des mojitos toute seule, et vous serez vraiment au top de la high-tech pour feignassou. Et puis, dans votre point santé, le docteur Ichou se rendra aujourd'hui au chevet de ceux qui ne sont pas au top, le burn-out. Comment le diagnostiquer? Comment le faire reconnaître par la médecine du travail? Le bon docteur nous dit tout. Juste après, un premier interlude musical. Midi sur novembre, Louane sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Ça s'est joué à 19 petites voix près. Theresa May survit de justesse au vote de défiance lancé contre son gouvernement après le rejet du projet d'accord sur le Brexit. 325 voix contre 306. La Première ministre souhaite désormais entamer des discussions avec l'opposition travailliste. Le Royaume-Uni est censé quitter l'Europe le 29 mars. L'affaire Benalla, de retour devant les sénateurs hier. Le directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Strauda, entendu par la commission d'enquête, a révélé que l'ancien chargé de mission avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre août et septembre dernier, et qu'il avait obtenu l'un d'eux grâce à une falsification de documents. L'Élysée a saisi la justice. Alexandre Benalla doit s'expliquer devant les sénateurs lundi prochain. Enfin, le gouvernement français lâche Carlos Ghosn, dont les heures à la tête de Renault sont comptées. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, demande la convocation d'un conseil d'administration pour désigner un successeur au PDG détenu au Japon depuis près de 2 mois et soupçonné de malversations financières et abus de confiance.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce jeudi 17 janvier. Et tout de suite, Céline, je devine la question qui fatalement vous brûle les lèvres.
Il est dans le sport ? Il est chaud ?
Mais excusez-la, chers auditeurs, depuis 5 heures, on cherche à deviner qui est le nouvel amant des Varocs. Non, Céline, sur quel cheval miser à Vincennes aujourd'hui ? Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 115 Divine de Navarie. Elle n'a pas été revue en compétition depuis le 27 novembre. Une absence volontaire, car cette jument tardive et perfectible ne disposait pas d'engagement favorable. Néanmoins, elle n'a jamais été arrêtée dans son entraînement et sachez qu'elle va se présenter en parfaite condition physique. Idéalement placée de par les conditions de course, elle va évoluer sur les 2700 mètres de la grande piste, un parcours sur lequel elle n'a quasiment jamais déçu. Dès lors, sa place est à coup sûr à l'arrivée. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 15, Divine de Navarie.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et l'heure de la convivialité a sonné. L'heure où tous les membres de la coloc DLC se retrouvent autour de la table du petit déjeuner pour prendre le café, lire la presse du jour et, exceptionnellement aujourd'hui, se livrer à un jeu de société culte qu'on adore, le Qui est-ce ? Spécial nouveau mec mystérieux d'Eva.
Depuis hier,
Céline, Jérôme et moi spéculons à tout va pour savoir qui est l'heureux élu. Enquête que nous menons évidemment avec le tact et la discrétion que vous imaginez. Tu nous racontes un petit peu ce qui se passe dans ta vie?
Oui, mais comment ça se fait alors?
Elle va venir accompagner.
Ah, t'as rencontré quelqu'un?
Mais accompagner.
Non, mais vous n'allez pas
me
faire chier.
Si, on veut tout savoir.
Non, déjà, tu l'as rencontré où?
Tu l'as rencontré où? On le connaît?
Elle t'a rien dit, elle t'a rien raconté.
Il est journaliste?
Tu verras.
Allez, Eva, allez, ne vous faites pas mariner plus longtemps. C'est qui ce nouveau mec ?
Eh bien, je vous présente Constantin Grigorichine, 53 ans, homme d'affaires russe, naturalisé ukrainien.
Et milliardaire.
Bien, oui, mais comme quoi parfois, mieux vaut pas savoir. Allez, on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. Libé, comme le Figaro, choisit de mettre le Brexit. Alors une, le Brexit qualifié de cul-de-sac pour Libé, un divorce qui déchire les Britanniques pour le Figaro. L'Opinion parle de victoire des agents du chaos et la croix de tunnel. Bien vu. Et notons enfin ce jeu de mots à la une du journal du Médoc. Avis de biotant dans le vignoble, à propos des propriétés viticoles qui souhaitent passer en bio. Mais vous, mes goulus de l'info, qu'avez-vous trouvé dans les journaux ce matin ? Eva, on commence par vous.
Eh bien écoutez, départ pour New York ce matin, enfin presque. Elsa Koneza, qui est envoyée spéciale des Échos, livre un grand reportage ce matin sur les dépotoirs de la ville américaine. Près d'un quart des déchets de la cité est envoyé au bord du lac Ontario dans deux immenses décharges, au grand dam des communautés locales. C'est 4,5 millions de tonnes de déchets qui s'entassent dans une zone à 80 km de la ville de Rochester. Autant d'ordures qui ne restent pas longtemps à l'air libre parce que tous les soirs, elles sont écrasées par un bulldozer. Au total, elles s'accumulent ainsi sur 1,5 km de profondeur. Elles sont invisibles pour l'œil parce qu'en fait, ça ressemble à une colline qui est tapissée de gazon. En revanche, c'est détectable à l'odeur. Il existerait entre 1,000 et 3,000 décharges de ce type aux États-Unis. Ça coûte deux fois moins cher aux collectivités que les incinérateurs, jusqu'à trois fois moins que le recyclage. Mais ça n'a rien à voir avec des décharges sauvages. En fait, ce sont des sites modernes qui requièrent une grande ingénierie. Il est question de membranes imperméables, de liquides retraités et autres gaz émis collectés avant d'être transformés en énergie. D'ailleurs, aucun cas de pollution n'a été constaté sur ces zones. Alors évidemment, ça nécessite de l'espace et elles sont donc souvent implantées, ces décharges, dans des communautés rurales ou dans certains états comme la Pennsylvanie, le Michigan ou la Virginie, là où les impôts d'ailleurs sont faibles et les communautés surtout moins organisées politiquement pour protester.
Ah,
forcément.
C'est surtout ça, oui.
Et voilà. C'est ainsi que 60% des déchets de New York sont enfouis sous terre près de Rochester, où chaque jour, il y a des centaines de camions en fait, qui transportent ces ordures. C'est une aubaine pour la ville qui a été frappée par la désindustrialisation des années 80, puisqu'évidemment, ils touchent des taxes là-dessus. Mais ce n'est pas du goût d'un certain nombre d'associations et d'élus qui voudraient développer le tourisme pour tenter notamment d'accélérer la fermeture de ces sites. En attendant, en fait, aucune solution de remplacement du traitement des déchets à court terme n'apparaît. Et ça, c'est plutôt inquiétant. C'est un excellent papier à lire dans les Échos ce matin.
Bien joué, Eva. Vous lisez les Échos.
Mais oui.
De mieux en mieux.
Tous les matins. Non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup ce magazine.
On reviendra sur votre mythomanie plus tard.
Non, pas du tout. Hein. Pas
Céline
du tout, hein.
D'Acosta.
Il travaille peut-être aux Échos.
Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, un journaliste des Échos.
Bon, vous connaissez le sens du mot harcèlement ou pas ?
Je le connais.
On en est pas là.
Ça m'empêche pas de le pratiquer.
Alors, moi j'ai une question pour vous. Savez-vous quelle est la plus ancienne émission de télé française, Evan ?
Des chiffres
pas,
et des lettres. Oui.
Non, ce n'est pas ça. Un indice sonore.
Ah, le jour du Seigneur.
Bravo. Et c'est grâce au Figaro, je l'ai appris ce matin. C'est une émission qui fête cette année ses 70 ans. Une émission qui, comme vous le savez, retransmet en direct la messe catholique le dimanche matin sur France 2. Qui regarde ?
D'accord. Mais je ne savais même pas que ça existait toujours.
Ah, mais ça existe toujours. Ouais. Ce sont les dominicains reconnaissables à leurs habits blancs à qui l'Église de France a confié la gestion de l'émission religieuse il y a bien longtemps. Et tous les 3 ou 6 ans.
Attendez, je vous raconte une anecdote parce que hier c'était vraiment ridicule. J'ai vécu un grand moment de solitude, je ne l'ai dit à personne. Je cherchais à acheter une BD d'Astérix pour mon fils, d'accord, pour lui faire une petite surprise. Et donc je m'arrête devant une librairie, je ne regarde pas, je vois qu'il y a des trucs pour enfants, j'entre dans la librairie. Quand j'entre dans la librairie, je comprends que c'est une librairie catholique.
Ah oui.
Il n'y a que des trucs, que des Bibles. Et donc, comme il y avait deux vendeurs qui visiblement n'avaient pas vu un client depuis 1997, je me suis senti obligé d'acheter un truc. Et donc j'ai acheté le truc le plus petit, qui est donc une Bible pour enfants. J'ai acheté une Bible, la Bible expliquée aux enfants, en version toute petite comme ça, et donc j'ai payé ça 8,50€. Voilà, c'était mon moment de solitude d'hier, je tenais à le partager avec vous, chers auditeurs.
Non mais c'est bien, ça va faire plaisir à votre fils. Et donc tous les 3 ou 6 ans, le producteur, c'est-à-dire ici le responsable général, change, mais le poste est toujours confié à un religieux dominicain. Et là, c'est le frère Thierry Hubert, qui a bientôt 50 ans, qui est justement le nouveau producteur. Le frère Hubert est agrégé de mathématiques, hein, c'est une matière qu'il a enseignée pendant 10 ans avant d'entrer en religion. Et il cherche toujours la bonne équation pour toucher son public. Il a déjà modifié l'émission, il a juste changé, décalé l'horaire de la messe d'une demi-heure, qui est passé de 10h30 à 11h. Résultat, il est passé de 500 000 à 620 000 téléspectateurs.
Ah,
il a gagné 120 000
téléspectateurs. Tard, c'est mieux.
Alors il dit que l'émission C'est une vieille dame, mais que la messe à la télé, les magazines produits, loin des paillettes, du superficiel, font du bien. Et je terminerai par cette phrase que dit le frère Hubert dans le Figaro. La joie, ce n'est pas nier. Il s'adresse aux désenchantés. La joie, ce n'est pas nier. La joie, c'est la signature du ciel que la terre nous réclame. Je trouve ça beau.
C'est très très beau. Oui. Mais si, alors je peux peut-être dire une bêtise parce que je regarde pas le Journal du Sénat, mais il me semble qu'il y a une partie œcuménique,
oui,
non? Il n'y a pas que le catholicisme. Il y a des débats parfois entre des bouddhistes. Ça, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Céline. Jérôme Lacroix.
Je vous emmène ce matin aux frontières de la science-fiction. Vous vous souvenez peut-être du lancement en grande pompe au cœur d'un parc d'attractions au Japon d'un hôtel 200 chambres, un hôtel vraiment pas comme les autres, appelé à devenir le premier établissement au monde dont le personnel serait entièrement composé
de robots.
De robots, exactement. Et bien, Libération nous raconte ce matin, 3 ans et demi après le lancement, ça capote. Plus de la moitié des 243 machines.
Les robots sont en grève. Voilà. Ils demandent une augmentation.
Elles sont retirées. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, quelques exemples de ce personnel pour le moins atypique. Vous arrivez, un vélociraptor à nœuds papillons gère votre enregistrement.
Un petit androïde
qui s'appelle Nao guide les clients, les oriente vers leur chambre ou vers la salle du petit déjeuner. 2 chariots à roulettes portent vos bagages jusqu'à la chambre. Chambre dans lesquelles une tulipe en plastique rose exécute vos ordres. Alors, à condition que vous lui parliez en japonais. Hein. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il demain? Éteint la lumière, entre autres. Alors, pourquoi aujourd'hui ça se grippe? Parce qu'on s'est rendu compte que ces machines, plutôt que d'accroître la productivité, elles la plombent. Elles augmentent la main-d'œuvre.
Et oui,
qu'elles nécessitent du personnel de chair et d'os pour les réparer. Alors ces machines, bien sûr corvéables à merci, mais elles sont capricieuses, raconte Libé, c'est assez drôle. Notesse d'accueil incapable de répondre aux questions, des porteurs de valises.
C'est vrai que ça doit rendre fou.
Des porteurs de valises.
Tu tapes dessus, du coup t'as le droit. T'as le droit de taper dessus comme quand l'ordinateur bug.
Bah non, parce qu'après il faut du personnel pour réparer. Non. Donc c'est le contraire. Les porteurs de valises dont les roulettes.
C'est bien pour DSK cet hôtel, il n'y a pas de risque comme ça.
Alors il y a une anecdote assez drôle sur la fameuse tulipe dans la chambre. Vous savez celle dont je vous parle,
oui, qui répond, elle
se déclenche parfois de manière intempestive la nuit à l'entente des ronflements d'un client. C'est arrivé, c'est plein. Alors restez seulement.
Consultez vite, vous faites peut-être une apnée du sommeil.
C'est ça. Il ne restait que 8 humains à travailler dans l'hôtel, certains derrière les caméras de surveillance, d'autres à l'aspirateur et au chiffon, oui, parce que les robots et l'eau ne font pas bon ménage, souligne un patron, et un autre de déplorer que ces machines ne savent toujours pas faire les lits, non mais franchement.
Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que faire un lit, c'est une opération technique compliquée.
Merci, dans l'IB. Super,
merci beaucoup Jérôme Lacroix, merci à tous les amis, Céline, Eva. Le pressing referme ses portes. Et au fait Jérôme, il paraît que vous l'avez vu le nouveau mec d'Eva, alors il est beau?
Comme un camion.
Mais il est riche.
Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Orgasmique réveil à l'écoute d'Europe 1.
Oh mon Dieu.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta pour nos amis qui se réveille à 5h28. Une question, une seule. Quel temps fait-il aujourd'hui? Je crois que le ciel est perturbé.
Oui, c'est vrai. On va retrouver une zone pluvieuse du sud-ouest au nord-est ce matin avec de la neige sur les reliefs des 700-800 mètres d'altitude. Quelques averses encore le long de l'Atlantique et des côtes de la Manche où là, on pourrait même avoir quelques coups de tonnerre et du vent. Pour les autres, c'est un ciel nuageux avec quelques éclaircies. C'est un petit peu plus lumineux des Pays de la Loire au nord de l'Aquitaine. Et puis en revanche, c'est couvert avec des averses sur les Alpes-Maritimes et l'ouest de la Corse. Les températures ce matin vont de 1 degré à Mulhouse en passant par 5 à Lille, 6 à Paris, 8 à Lyon et Vannes, 10 degrés à Biarritz et Toulon.
Et cet après-midi,
eh bien, ce sera toujours mitigé avec des averses encore sur le flanc est, de la neige sur les reliefs. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies. On aura parfois de larges éclaircies et localement quelques averses. Là où on devrait rester au sec et sous le soleil, c'est sur les côtes entre le Morbihan et la Gironde et puis également les côtes de la Manche. On aura un petit peu de vent également dans le nord-est et sur le Languedoc-Roussillon. Et pour être bien complète, les températures baissent avec une moyenne de 5 à 9 degrés sur la moitié nord, 10 à 16 encore sur la moitié sud. Demain matin, on aura des gelées quasiment partout, donc ça va continuer à baisser.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'info, pour mieux comprendre notre monde et aussi pour tenter de comprendre ce matin ce qui arrive à notre collègue Eva Rock.
Et si c'était de l'eczéma?
Non Céline, je crois plutôt que c'est de l'amour. Mais avec qui? Restez avec nous, c'est le fil rouge de cette matinale. À suivre, devenez l'attraction de la machine à café grâce à Jeudi les bons tuyaux, les conseils de nos experts culture et nouvelles technologies pour être toujours à la pointe. Ce matin, vous repartirez avec un livre audio et des baskets connectées qui se lassent toutes seules. On n'arrête pas le progrès. Et puis, ne manquez pas notre point santé, le docteur Ichou nous parlera du burn-out, cette forme de dépression liée au travail. Parmi les causes possibles, trop de pression d'un supérieur, désintérêt pour son activité ou encore injustice entre salariés.
Il y en a, c'est Las Vegas, d'autres, c'est l'Alpe du Havre. Et nous, on est là. Nous, c'est rue des Cévennes, là. C'est bien aussi.
Merci d'avoir.
d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller les 5h30. 5h07, Mathieu Noël.
Les infos de ce jeudi 17 janvier 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Le débat autour des violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes. Les lanceurs de balles de défense sont pointés du doigt. Selon l'enquête d'Europe 1, la France a choisi les munitions les plus puissantes du marché. Les avocats de Carlos Ghosn font appel du refus de libération sous caution. Le PDG de Renault désormais officiellement lâché par l'État qui veut la nomination d'un successeur à la tête du constructeur. Et puis l'enquête qui éclabousse le tennis mondial. 4 joueurs français en garde à vue dans une affaire de match truqué. Les détails dans le Journal des Sports avec Jérôme Lacroix.
Europe 1.
LBD, 3 lettres qui créent la polémique en ce moment. Lanceur de balles de défense, une arme utilisée par les CRS et les gendarmes mobiles, accusée d'être à l'origine des blessures de plusieurs gilets jaunes, mais aussi de journalistes. 69 personnes auraient ainsi été blessées depuis novembre. On a beaucoup vu les images de cet homme touché à la tête samedi à Bordeaux. Il est aujourd'hui dans le coma après un tir de LBD. Son utilisation nécessite une formation et une application rigoureuse. Mathieu Bock.
En Europe, tous les pays du Nord l'ont interdite. La France est la seule, avec les pays du Sud, à utiliser cette arme. Plus puissant que leurs ancêtres français, les flashballs, ces LBD sont conçus en Suisse et peuvent atteindre leur cible avec précision à plus de 30 mètres. Le fabricant que nous avons joint au téléphone s'étonne du nombre de manifestants blessés en France. Sa notice d'utilisation est pourtant claire. Elle rejoint la consigne que reçoivent les policiers, toujours tirée entre les épaules grâce au viseur électronique. L'armurier explique également que la France choisit les munitions les plus puissantes que l'arme est capable de tirer. Alors pourquoi ce choix ? Le fabricant répond que ces cartouches américaines ont l'avantage d'être bon marché. Et il précise, même dans notre propre pays, la police utilise des munitions moins puissantes pour le maintien de l'ordre. En France, ces lanceurs de balles de défense sont dénoncés depuis plusieurs années par des associations. Il y a un an, le défenseur des droits réclamait même leur retrait. Mais le ministère de l'Intérieur n'a pas l'intention d'y renoncer, puisqu'il vient de commander près de 1300 pièces juste avant Noël.
Une enquête signée Mathieu Bock et le patron de la police nationale, Éric Morvan, vient d'envoyer une note aux directions des forces de l'ordre pour rappeler que l'utilisation des LBD doit être proportionnée et que le tir doit être exclusivement dirigé vers le corps.
Europe 1, il est 5h32.
Le ministre de l'Agriculture fait beaucoup parler de lui pour ses déclarations sur l'alcool.
Oui, Didier Guillaume affirme que le vin n'est pas un alcool comme les autres et qu'il n'a jamais vu un jeune sortant de boîte de nuit sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône. Pour lui, les jeunes boivent plutôt des alcools forts, des propos qui heurtent la communauté médicale. Écoutez l'addictologue Philippe Battel.
Un, il essaye de distinguer la toxicité du vin par rapport aux autres alcools. Or, on a quand même des données qui montrent qu'il n'y a aucune différence de toxicité pour ce qui est des dommages sur le corps et sur le psychisme. Deuxième point, il explique que les adolescents qui font du binge drinking ne boivent pas de vin. Mais alors moi, je l'invite dans les fêtes de village, chez moi, en Charente, il verra que les adolescents, ils se torchent à ce qu'ils ont sous la main, du vin, de la bière. Et il suffit d'aller dans les grandes villes le vendredi soir pour voir comment se situe un after work. C'est du binge drinking et ça va jusqu'à 35 ans. Et Cherry on the Cake, ça ne sert à rien de limiter la consommation d'alcool. Il faut éduquer les jeunes. Et si on les éduque à boire un très bon vin, avec leurs parents, ils ne bingeront pas. Non seulement ne bingent pas moins, mais ils bingent plus. C'est un contresens. Je trouve ça absolument navrant.
Voilà la colère du docteur Philippe Battel, joint pour Europe 1 par Aude Vernuccio. L'État lâche Carlos Ghosn. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire réclame un conseil d'administration de Renault dans les prochains jours pour désigner un successeur à son PDG. Carlos Ghosn est en prison depuis 2 mois au Japon. Sa dernière demande de libération sous caution a été à nouveau rejetée. Et ce matin, on a appris que ses avocats faisaient appel de ce refus.
Outre-Manche, Theresa May peut souffler, mais le plus dur reste à faire.
Oui, les députés britanniques ont rejeté la motion de censure contre la première ministre britannique hier soir. 325 voix contre 306, une marge de seulement 19 voix. Theresa May se dit maintenant déterminée à poursuivre le travail. Elle a immédiatement entamé des discussions avec l'opposition, mais le leader de la gauche, Jeremy Corbyn, a décliné l'invitation. Et puis la réponse à cette question extrêmement compliquée, comment nourrir sainement 10 milliards d'humains d'ici 2050, tout en préservant notre planète. Selon les scientifiques qui publient leur étude dans la revue médicale The Lancet ce matin, il faut diviser par 2 la consommation mondiale de viande rouge et de sucre et doubler fruits, légumes et noix. Si les Américains, par exemple, devaient suivre ces recommandations, ça veut dire qu'ils devraient diviser leur consommation de viande par 280.
Et Eva par 316. C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci Hélène. Un dernier mot ?
C'est de la pipe.
Oui, alors, pardon,
j'en étais sûre.
Pardon, parfois pour nous divertir dans la rédaction d'Europe 1, il nous arrive de jouer au camoulot.
monologue. Top, Céline. Je mouche un clown en diagonale du Mont-Saint-Michel.
Alexis Triboul et Édouard Falipou.
Vous manquez le cochonnet, vous reculez d'une case. Jérôme.
Un bon gros hamburger dans un restaurant très tendance de Dubaï.
Je braque un fond en prix avec Evelyne Delia.
Du coton sur la lune.
Je mange un bidis et je terraforme Pluton avec Daniel Picouli. Bravo, Jérôme. Camoulox. On passe au journal des sports.
N'importe quoi.
Ah, on est allé loin dans le n'importe quoi.
Ah,
là,
c'est drôle.
À la une, le tennis mondial est-il gangréné par la corruption ? Il manquait plus que ça.
Des dizaines de joueurs professionnels approchés pour perdre un jeu par-ci, un set par-là, voire carrément un match, une finale.
Les joueurs français ont été beaucoup approchés, visiblement.
Alors, il y a un dessin très drôle en derrière de l'équipe de Soulcier là-dessus qui dit c'est Benoît Paire qui dit merci de nous laisser notre droit à perdre gratuitement. C'est très drôle. Soulcier, je l'adore. Approché par des parieurs qui proposent aux joueurs de l'argent pour laisser filer tout ou partie d'une rencontre, hein, c'est très sérieux, afin que leur pari, bien sûr, soit rémunérateur. Une grande enquête est actuellement en cours. La menace plane sur l'élite, mais elle serait bien ancrée dans les tournois de divisions inférieures. Partout dans le monde, y compris en France, 4 joueurs français ont été placés en garde à vue. Certains auraient reconnu s'être laissés corrompre, croit savoir ce matin le journal L'Équipe. Et cela n'étonne pas du tout. Hugo Nice, 27 ans, 79e mondial, habitué des tournois de 2e et 3e zone. Son constat est alarmant.
Via les réseaux sociaux, pour perdre un set, un match, une finale, quoi que ce soit, moi, c'était des 1500 euros, des 2000 euros pour perdre une finale, par exemple. Voilà, c'est des sommes comme ça. Après, ça m'est arrivé 2-3 fois. J'ai tout de suite prévenu le juge arbitre, tout ça. Mais ça arrive toutes les semaines, partout dans le monde. C'est incroyable, quoi. Comment ça se fait qu'un mec puisse parier en Ouzbékistan sur un premier match de qualif en Turquie? Il n'y a aucun contrôle sur l'accès à ces tournois, il y a un grand flou et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui il y a un bordel pas possible à cause de ça.
Des propos recueillis par Christophe Taureau, l'enquête du service des sports sur la corruption dans le tennis à retrouver dans Europe 1 va plus loin à 7h15. L'Open d'Australie à Melbourne et on attend la matinée notamment Djokovic Tsonga pour une place au 3e tour.
Le foot, Jérôme, et les Verts sur le podium.
Saint-Etienne 3e après sa victoire hier 2-1 sur Marseille, match en retard de la 17e journée, les Provençaux 9e à 8 points du podium, les Lyonnais sont 4e de partout hier soir à Toulouse, c'était juste. Également hier soir, notamment Monaco-Nice, un partout. Et puis en Coupe de France, Strasbourg défiera le PSG mercredi prochain en 16e de finale. Succès alsacien à Grenoble hier soir, 1-0 après prolongation.
On termine avec la personnalité du jour.
Le retour du patron Nicolas Karabatic devrait disputer ce soir ses premières minutes au mondial de handball avec les Bleus France-Russie. Dernier match du premier tour. Karabatic revenu à une vitesse impressionnante après une opération à un pied mi-octobre. Retour sur le terrain dû à la blessure du capitaine français Cédric Soreindo, touché à un mollet, forfait pour la suite du mondial. Une tuile, mais il faut s'adapter, clame Luka Karabatic, le frère cadet.
C'est un gros coup dur pour notre équipe, pour notre capitaine, donc il faut continuer à se regrouper. La Russie est une équipe très dangereuse, on l'a vu, elle a été capable de faire match nul contre l'Allemagne. Ils ont de très bons joueurs, donc ça va être de nouveau un match très difficile.
France-Russie, 20h30.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Céline, une réflexion à ce stade ?
C'est dur d'être un tout biffré.
Oui, heureusement qu'à l'époque, GG avait refusé de signer le contrat.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info et le rire sans canaille, sous l'œil complice d'Evaroc et Céline Dacosta. À suivre, jeudi, les bons tuyaux, le meilleur de l'actualité culturelle. Et puis notre page santé consacre aujourd'hui à un phénomène, hélas, de plus en plus fréquent, le burn-out. Cette dépression liée au travail, comment la diagnostiquer, comment la faire reconnaître et surtout, comment la surmonter? En matière de traitement préventif, le docteur Ichou a sa petite idée.
Je vous ai injecté de la dopamine, de l'hormone, de l'androstérone.
Ça, l'homéopathie, c'est pas son truc à Ichou.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et vous faites bien. Lors d'un point sur la météo, les températures commencent à baisser, ça y est.
Oui, c'est vrai. Alors ce matin, après le passage de la perturbation pluvieuse, les minimales sont encore douces, même légèrement en hausse, mais ça va baisser cet après-midi avec une moyenne de 5 à 9 degrés, un petit peu plus encore près de la Méditerranée. Et demain, les gelées matinales concerneront une grande partie du pays. Côté ciel, c'est mitigé, souvent partagé entre nuages éclaircis et averses, des averses plus présentes du sud-ouest au nord-est, et ça toute la journée. C'est plus calme et lumineux cet après-midi près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Et puis on aura aussi de la neige sur tous les reliefs.
Merci Céline. Eva Rock, la question
beaucoup,
qui agite les réseaux sociaux ce matin, c'est évidemment qui est votre nouveau mec.
Exactement.
Mais ce n'est pas la question que vous avez choisi de poser à nos auditeurs.
On leur a demandé un peu leur fiche d'identité, puisque c'est le recensement qui débute aujourd'hui, à savoir votre âge, votre prénom, et puis votre signe particulier. Alors Nodeur, qui est en fait Cyril, 41 ans, nous a répondu en nous réalisant un petit dessin sur une nappe en direct de la fin de sa nuit, parce qu'il est Loufia, c'est-à-dire serveur et dessinateur de presse, et son signe particulier toujours aviné, nous dit-il. Et puis Carlisa, en fait, son prénom c'est Isabelle, son âge 28 plus 20 ans, une tache en forme de poussin sur l'épaule droite, et elle est d'origine portugaise
comme Céline Dacosta.
Oui,
continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici l'heure de notre rendez-vous santé avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Dans son hors-série du mois de janvier, le magazine Science et Avenir s'intéresse aux relations entre le mental et la santé. Il y a question de relaxation, de sophrologie, d'hypnose, d'effet placebo, mais aussi de stress et de burn-out. Comment définissez-vous le burn-out, Marcel Ichoux?
Le burn-out est défini comme un syndrome d'épuisement physique et psychique, avec divers troubles comme de la fatigue chronique, des maux de tête, de l'insomnie, mais aussi des sentiments de culpabilité et de dévalorisation. Ces symptômes surviennent toujours dans un cadre professionnel, avec un surcroît de travail, de stress, de pression, associé plus ou moins à un encadrement professionnel toxique.
C'est-à-dire Eva, ne me regardez pas comme ça.
Non, parce que
ça va aller. Hein.
C'est vous avez... qui, avec Marcel, vous me regardez, je ne sais pas pourquoi.
Ouais. C'est une sorte de dépression, en somme.
Ah oui, on peut la comparer à une dépression. La seule caractéristique, c'est que ces symptômes surviennent dans le cadre professionnel. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes personnels qui s'y rajoutent, mais c'est vraiment dans le cadre professionnel et ça a été identifié comme une maladie spécifique. Avec la crise économique, on en voit beaucoup de cas parce qu'on nous demande de plus en plus, il y a de plus en plus pression, de résultats. Les managers sont souvent... parfois toxique, il faut le dire. Hein. Et on voit de plus en plus de cas de burn-out. Je ne regarde pas Eva Rock, mais elle me regarde, je ne sais pas pourquoi.
Bah parce que vous êtes beau, Marcel, je vous regarde. Voilà.
Eva, votre manager n'est pas toxique?
Si c'est vous, non.
Bravo. Est-ce que c'est une maladie reconnue, le burn-out, Marcel?
Alors, elle est reconnue sur le plan médical. Il est plus difficile de la faire reconnaître par la sécurité sociale. Oui. Il faut deux conditions pour cela. Démontrer que la maladie est directement liée au travail et qu'elle a entraîné une incapacité permanente, c'est la formule consacrée, partielle ou égale à 25%, c'est-à-dire que des arrêts de travail à répétition. Mais après, honnêtement, il faut arriver avec la médecine du travail, les médecins de la sécurité sociale, à faire admettre ça comme une maladie professionnelle.
Merci beaucoup, docteur Marcel Ichoux. On vous retrouve demain pour un nouveau Point Santé à 5h40.
Europe 1. Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui dit oui à l'info, mais non à la sinistrose. À suivre, notre séquence des bons tuyaux. Peut-être certes un peu moins haut de gamme qu'hier avec Mathieu Charrier, qui, il faut le dire, avait mis la barre très haut.
De l'action, du combat, des jolies filles, quelques zizi.
Ce matin, nos experts vous proposeront des baskets qui vont changer votre vie et un livre qui va changer vos trajets quotidiens, métro ou en voiture. On y vient, mais d'abord, deuxième page musicale de cette matinée. Leave a Light On, Tom Walker sur Europe 1.
Il est 5h46, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec Jeudi les bons tuyaux, le meilleur de la culture sur un plateau.
Et ça rime.
Sous vos applaudissements.
En janvier, la French Touch Renault a tous les talents.
Oh là là, incroyable les attaquants! Dans la défense, il s'infiltre dans un mouchoir de poche, c'est du grand art!
Et capture avec Easy Park Assist, lui aussi il se garde dans un mouchoir de poche, et c'est vraiment facile! Sans parler de sa reprise plus 3000 euros.
Gros talent, capture.
Renault reprend votre voiture 3000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'un Captur. Portes ouvertes du 17 au 21 janvier. French Touch, touche française. Offre valable jusqu'au 31 janvier sur toute la gamme Captur. Voir Renault.fr.
Il est 5h47, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Ça s'est joué à 19 petites voix près. Theresa May survit de justesse au vote de défiance lancé contre son gouvernement après le rejet du projet d'accord sur le Brexit. 325 voix contre 306. La Première Ministre souhaite désormais entamer des discussions avec l'opposition travailliste. Le Royaume-Uni est censé quitter l'Europe le 29 mars. L'affaire Benalla, de retour devant les sénateurs hier, le directeur de cabinet de l'Élysée, Patrice Trodat, entendu par la commission d'enquête, a révélé que l'ancien chargé de mission avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre août et septembre dernier, et qu'il avait obtenu l'un d'entre eux grâce à une falsification de documents. L'Elysée a saisi la justice. Enfin, du foot, les footballeurs marseillais encore battus hier soir en Ligue 1, 2-1 à Saint-Etienne, match en retard de la 17e journée. L'OM 9e ce matin à 8 points du podium. Les Stéphanois, eux, sont 3e.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 17 janvier 2019. Et les amis, c'est l'heure où le silence se fait dans tous les PMU de France et de Navarre. L'heure des pronostics de José Coves, notre spécialiste hippique et grand fan des Varocs.
Sérieuse et régulière, c'est sa 10e cravache d'or.
C'est beau, quel beau palmarès, Eva. Bonjour José Coves.
José,
bonjour,
je n'en peux plus.
Bonjour à tous. Mais oui, mais c'est tellement bon.
Ah oui, bah oui.
Ah bah la cravache d'or.
Quintet au féminin cet après-midi à Vincennes, 16 juments sont au départ. Mes 5 priorités, d'abord le 14 Douceur du Chêne. Depuis qu'elle trotte sans ses chaussures, elle a passé de la vitesse supérieure. Dantella Bella, le 12, est à 100%. Cette épreuve arrive pour elle à point nommé. Préparée par le maestro Jean-Michel Bazir, le 17 Darling Berry ne sera pas en retard au rendez-vous. Décoloration, le 11 reste sur 4 succès, obligé d'y croire. Et la régulière d'Ascalia, le numéro 13, finira encore dans les 5 premières. Trois autres possibilités. Le 15 Divine de Navarre, son driver Franck Nivard en tire toujours le maximum. Attention au numéro 1, Dolce Vita Quick, c'est la jument surprise par excellence. Et enfin le 16, d'Extase Montabal, parce qu'elle a le droit de croire à son réveil. Voici donc mon ticket pour la première course vers 13h47. D'abord le 14, le 12, le 17, le 11 et le 13. Et l'on ajoute le 15, l'As et le 16.
Si j'ai bien compris, José, Douceur du Chêne, le 14, met des chaussures pour trotter, pas des talons hauts, j'espère.
Non, ses chaussures, ce sont ses quatre fers, naturellement. Depuis que Douceur du Chêne trotte les pieds nus, son allure plus légère et plus propice à la vitesse. La jument est prête pour l'exploit. Mathieu, il nous faut cette douceur dans ce monde de brutes.
Ouais, et moi qui commence à m'y connaître un petit peu, je peux vous dire une chose, Douceur du Chêne, c'est pas un gland. Merci José.
Il est 5h50.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il se fait rire tout seul, tellement il est bête. Non mais, allez, enchaînez, va.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Non, je pensais aux deux T dans Télérama. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici Jeudi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Nicolas Caro pour la littérature, Grégoire Martinez dit le Judas roux depuis qu'on a appris qu'il nous quittait. Une équipe néanmoins très soudée, cette équipe très rieuse et clairement pas menacée par le burn-out.
Le burn-out est défini comme un syndrome d'épuisement physique. Et psychique.
Où est-ce qu'ils aimeraient aller?
C'est pas facile.
Mais aussi des sentiments de culpabilité.
Je regrette déjà ce que je viens de dire.
Associés plus ou moins à un encadrement professionnel toxique.
Une revue de presse en mode zapping.
Petit lapsus. Mais non, pas de burn-out les amis, franchement. Hein, on est heureux. Nicolas Caro, on commence par la littérature. Une littérature un peu spéciale le jeudi, c'est la littérature... Comment dirais-je ?
Connecté ?
Non, oui, audio. C'est ça, c'est les livres audio tout simplement. Et aujourd'hui, Brexit oblige, parce que vraiment vous collez à l'actu, vous avez choisi un classique anglais.
Le classique des classiques britanniques, même Oliver Twist de Charles Dickens. Oliver Twist est orphelin, il est donc placé dans une institution, mais c'est horrible. Sévices, mauvais traitements. C'est dans ces passages-là qu'on comprend l'expression « c'est du Dickens ». Le Londres du 19e siècle, bien sombre, bien crade, la misère dans toute sa cruauté. Bref, Oliver Twist fugue, mais il intègre une bande de voleurs emmenée par un certain Fagin, un sale type. On suit les péripéties d'Oliver, comment il essaye de se débrouiller avec la vie qu'il a, grâce à des gens bien aussi. Il y en a, il y a de l'espoir chez Dickens. Mais c'est vrai que ça commence mal. Écoutez les premières phrases lues par Constance de Bock.
Parmi les divers monuments publics qui font l'orgueil d'une ville dont, par prudence, je tairai le nom et à laquelle je ne veux pas donner un nom imaginaire, il en est un commun à la plupart des villes, grandes ou petites. C'est le dépôt de mendicité. Un jour, naquit dans ce dépôt de mendicité le petit mortel dont on a vu le nom en tête de ce chapitre. Longtemps après que le chirurgien des pauvres de la paroisse l'eût introduit dans ce monde de douleur, on doutait encore si le pauvre enfant vivrait assez pour porter un nom quelconque.
On est tout de suite pris dans l'histoire, grâce au style.
Bienvenue dans le monde de douleur. Mmh. Et les intrigues chez Dickens comptent beaucoup. Il était publié en feuilleton. D'ailleurs, l'acteur Harry Lloyd, arrière petit-fils de Dickens, qu'on a vu dans Game of Thrones notamment, il jouait le frère de la mère des dragons, a déclaré aujourd'hui...
Le frère de la mère des dragons, attendez, j'essaie de resituer.
Le pervers, là... qui est avec sa sœur Daenerys.
Ah oui, voilà. D'accord. Ah oui.
Et bien donc, c'était l'arrière-arrière petit-fils de Dickens. Il a dit Charles Dickens serait un showrunner aujourd'hui, c'est-à-dire un créateur
directeur
de série.
Directeur de série.
Il a raison, je pense. Dickens se lit comme on regarde une série de génie.
Oliver Twist, donc, de Dickens, à écouter sur audible.fr. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Grégoire Martinez, à quoi ressemblera la chaussure du futur? On commence à en avoir un aperçu avec les nouveaux modèles qui arrivent.
Et oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous Mathieu et pour vous tous qui nous écoutez.
Mieux que la machine à Morito?
Mieux que la machine à Morito, vous n'aurez plus à apprendre à vos enfants comment lasser leurs chaussures ou à les lasser.
C'est une étape de l'éducation.
Voilà, oui, voilà.
Voilà le monde que vous nous préparez. Déjà qu'on ne sait plus lire une carte avec les GPS, il y a des cases de notre cerveau qui vont se déconnecter une à une et on va devenir complètement con. Moi c'est ce que je vous dis Grégoire.
Il y en a qui sont déjà déconnectés dans votre cerveau.
Oui, oh là là, le Judas roux se permet tout maintenant qu'il a annoncé qu'il partait. Il lâche tout.
Eh bien, Grégoire, on va finir avec un beau mano à mano. Allez-y.
Donc, ces chaussures, c'est Nike qui a présenté le premier modèle et elles se serrent toutes seules. En fait, elles vont se serrer toutes seules grâce à une application. Elles sont connectées à une application pour smartphone et c'est pas un prototype, c'est quelque chose qui existe déjà. Elles sont déjà en production puisqu'elles sortiront au mois de février. Alors, concrètement, ce sont des baskets qui sont destinées aux sportifs et qui sont connectées à cette application sur smartphone. Sur l'application, vous ajustez le serrage de votre chaussure et vous pouvez aussi modifier la couleur des deux petites LED qui sont sur le côté. Tout ça en permanence. Et pour que ça fonctionne, il y a dans ces chaussures une batterie. Mais bon, je vous rassure, vous n'aurez pas à brancher vos chaussures pour les recharger. Il suffira juste de les poser sur une petite plaque parce que c'est un système de recharge sans fil.
Mon cerveau, effectivement, a quelques problèmes, quelques cases manquent. Néanmoins, une question surgit immédiatement. C'est que si c'est pour sportif, votre truc, et s'il y a une batterie dedans, ça alourdit le poids de la chaussure. C'est un peu con pour un sportif.
Alors non, les chaussures restent quand même très légères parce que c'est une batterie toute petite. Ça consomme en fait très peu. Ça consomme très peu et surtout, c'est une batterie souple. Donc vous allez pouvoir, vous n'allez pas avoir ce souci de la chaussure restera toujours.
À mon avis,
aussi,
le rapport poids-puissance est moins bon.
Aussi flexible. Mais surtout, là, en gros, alors évidemment, c'est quand même un petit peu gadget, tout ça, mais il peut y avoir un vrai usage pour les sportifs pour ajuster en fait le serrage de la chaussure en fonction de leur activité sportive à chaque fois plus facilement. Et surtout, c'est la première fois qu'on a des chaussures qui se lassent toutes seules à un prix à peu près raisonnable. Je dis bien à peu près parce que ça vaut 350€. C'est évidemment. Non, mais c'est plus cher qu'une basket normale, mais comparé à une basket de sportif haut niveau, c'est pas forcément beaucoup plus cher.
Mais juste, elle se lasse pas, il n'y a pas de lacets, elle se resserre.
Non, elle se resserre.
Voilà, c'est ça, c'est pas vraiment des lacets.
Non, c'est pas vraiment des lacets.
Merci beaucoup, Grégoire Martinez. Eva Rock.
Oui, parmi les youtubeuses que j'apprécie, je vous présente Eleonore Coste. C'est une excellente comédienne, elle est très créative, intelligente et drôle. La preuve avec ce nouveau format de vidéo qu'elle vient de poster sur YouTube, ça s'appelle Genre humaine. Alors, c'est une pastille de 5 minutes en plan fixe à l'extérieur, deux copines qui bavardent, un peu comme Céline Dacosta et moi.
Vous allez voir,
pas sûr. Assise sur un banc, elle disserte de la vie, de la mocheté des pantalons marrons et des hommes. Et d'ailleurs, il y a un homme qui vient de s'asseoir pas très loin d'elle.
T'arrives pas à voir ce qu'il dit là ?
Oh, il est trop loin, Lolo.
Putain, c'est chiant, parce que si je savais, si je pourrais l'aborder.
Ouais. Il se ronge les ongles en revanche.
Ah merde, c'est signe de dérangement ça, non ?
Bah, faut voir, est-ce que c'est un stressé normal, genre je ne supporte pas la pression, ou est-ce que c'est un gros stressé du cul comme toi ?
Quoi comme moi ?
Bah, comme toi, genre dépression, terreur nocturne, angoisse de la vie, de la mort, hypochondriaque.
Oui, bon, bah, en même temps, c'est chiant aussi de se retrouver face à quelqu'un qui entrave que dalle à tes angoisses, là.
Mais pourquoi on a entendu un extrait de l'émission d'hier avec vous et Céline ?
C'est ça, exactement. Mais je vous recommande vivement d'aller au bout des 5 minutes parce que la fin est parfaite. Genre humaine prouve surtout qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup de moyens en termes de réalisation.
C'est un super titre, Genre humaine,
pour proposer un format original. La réussite de cette vidéo tient à l'écriture et à l'interprétation. Alors, Eleonore Coste a fait appel à Marion Séclin pour ce premier épisode et les deux filles sont vraiment à l'unisson, à croire qu'on assiste à une vraie conversation prise sur le fil, en espérant qu'Eleonore Coste poursuive cette excellente série. C'est à voir sur YouTube, Genre humaine.
Merci Eva. Merci à toute l'équipe des bons tuyaux qui se reformera demain et peut-être que demain, enfin, elle aura craché le morceau et qu'on connaîtra l'identité du mystérieux homme qui partage la vie d'Eva depuis quelques jours. En tout cas, elle rayonne. Hein. Céline, vous la trouvez changée ?
Oui, mais elle se lave les cheveux maintenant.
Oh, c'est fou, l'amour. C'est fou.
Europe 1.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Et le temps est extrêmement mitigé aujourd'hui,
oui,
non
vrai.
Même de la pluie ce matin.
Oui, du sud-ouest au nord-est. C'est le reste de la perturbation d'hier arrivée par à la pointe bretonne. On a de la neige également sur les reliefs des 700-800 mètres. Quelques averses encore le long de l'Atlantique et des côtes de la Manche, où là, on pourrait même avoir quelques coups de tonnerre. Pour les autres, le ciel est nuageux. Quelques éclaircies, mais alors timides. C'est un petit peu plus lumineux des Pays de la Loire au nord de l'Aquitaine. Et puis couvert avec des averses sur les Alpes-Maritimes et l'ouest de la Corse. Cet après-midi, ce sera toujours mitigé, des averses très présentes du sud-ouest au nord-est, de la neige sur les reliefs. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Localement, là aussi, quelques averses. Là où on devrait rester au sec, c'est sur les côtes entre le Morbihan et la Gironde, sur les côtes de la Manche également avec du soleil. Et puis on aura un petit peu de vent aussi dans le nord-est et sur le Languedoc-Roussillon.
Merci Céline.
Les températures.
Ah oui, les températures.
Non, pardon,
j'allais oublier les températures, alors que c'est le plus important.
Elles sont assez douces ce matin après le passage pluvieux. 1 degré à Mulhouse, 6 à Paris, 10 degrés à Biarritz et Toulon. Et puis elles vont baisser cet après-midi. C'est le début de la baisse des températures qui va s'amorcer avec une moyenne de 5 à 9 degrés sur la moitié nord. Il en fera 7 à Paris, 10 à 15 degrés encore sur la moitié sud. On aura même encore 16 degrés à Bastia.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.